Eftov le Koulam est enfin de retour après notre absence prolongée due soit au corona, le confinement, ou alors tout simplement Ben Azmanim. Hein, de toute façon, c'était les vacances de la Torah, comme vous le savez bien, on n'a pas le droit d'étudier la Torah entre Yom Kippourim et Rosh Chodesh Cheshvan. Non, évidemment qu'on a le droit, mais dans le monde des yeshivot, c'est les vacances.
Ouais,
donc, c'est le moment où, de toute façon, il n'y a pas de cours. Et donc, maintenant, on se retrouve. Ben voilà, on se retrouve. On a terminé le confinement. On espère que pour de bon, qu'il n'y en aura pas un troisième. Et on prie que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible. Amen. On a le droit de dire amen.
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 Yofi. Donc, on est dans notre étude du livre de Shemot. Ça parle beaucoup, hein. C'est le retour. On revient donc au livre de Shemot et on est arrivé, si je ne m'abuse, la dernière fois, au Perek Vav. Perek Vav, verset... on va reprendre le verset tête. On avait terminé sur le verset tête, mais on va... Parashat Vaera, chapitre Vav, verset tête, dans les Chumashim blancs, c'est page 30. Ouais. C'est bon?
Ah, on est à Youd.
C'est pour ça que je dis, viens, on reprend le tête. On reprend tête et on enchaîne. Ok, c'est bon, tout le monde? Et on finit. Alors, c'est parti. Donc, contextualisation de l'ambiance. Moshe est en discussion avec Dieu. Je vous rappelle que la première rencontre entre Moshe et Pharaon, c'est pas forcément très très bien passé. Et depuis qu'il est passé le voir, la situation a empiré pour les Bnei Israël. Donc, Moshe revient voir Dieu en lui disant « Allô, depuis que tu m'as envoyé là-bas, c'est encore pire. » Et c'est là que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe l'objectif. Voilà ce que tu vas devoir dire aux Bnei Israël, voilà le pourquoi de la sortie d'Égypte. Et on avait parlé la dernière fois des fameux cinq termes de délivrance. Ken, ve'otzeti, ve'itzalti, ve'gaalti, ve'lakarti, ve'veti. Ok, les cinq termes de délivrance, y compris, je vous amènerai dans la terre que j'ai promise à Abraham, Israël et Yaakov. Et donc voilà, Moshe part pour sa deuxième, je ne vais pas dire deuxième mission, c'est toujours la même, mais le deuxième essai, la deuxième partie de la mission. Et donc, il vient voir les Bnei Israël. Et on nous dit, « Vaïdaber Moshe ken el Bnei Israël, velo shamu el Moshe, mikotzer ruach ume avoda kasha. » On avait terminé la dernière fois en expliquant ce que veut dire au niveau littéral que les Bnei Israël sont trop épuisés, détruits moralement, physiquement, pour pouvoir entendre la profondeur des cinq termes de délivrance. On avait également expliqué, selon le Ralbag, qu'en fait, c'est Moshe qui n'arrive pas à leur parler. C'est-à-dire qu'il leur parle, mais il n'a pas un langage qui est adapté au Bnei Israël. Ok ? Et on avait dit qu'il a parlé Bezulat Emtsaout Aaron. Que Aaron n'était pas là. Si Aaron avait été là, peut-être que ça aurait marché. Et j'ai terminé la dernière fois en disant, mais moi je pense que si Aaron il avait été là, ça n'aurait pas marché quand même. Mais pas à cause de ce que le Ralbag a mis en surbrillance. C'est-à-dire que le côté Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à avoir un langage qui est, j'ai envie de dire, assez bas pour les Bnei Israël, parce que lui, il vogue dans les sphères supérieures. C'est pas à ce niveau-là que je dis que Aaron, lui, il sait parler aux Bnei Israël. Il connaît leur langage, il n'y a pas de problème. Mais il y a une autre raison qui fait que même si Aaron était là, ça n'aurait pas marché. Et cette raison, elle nous provient du Meshech Chochma de Rabbi Meir Simcha Hakohen de Dvinsk. Venez, on rentre dans les versets pour voir de quoi il s'agit. Donc il vient voir les Bnei Israël, là. C'est bon. C'est le but. Vaïdaber Hachem, El Moshe est mort. Je comprends pas. Il est déjà parti les voir, il n'est pas parti les voir. Et quand il lui a dit, tu vas leur dire les cinq termes de délivrance, on nous dit Vaïdaber Moshe ken El Bene Israël. Donc a priori, la discussion entre lui et Dieu est terminée. Ça y est, il est parti bosser. Et là, tout d'un coup, Vaïdaber Hachem, El Moshe est mort. Mais oui. C'est le résultat, c'est-à-dire de Velo Shamu El Moshe. C'est-à-dire que ça ne marche pas la façon dont Moshe parle, qu'il y a quelque chose qui bug. Et donc Dieu va expliquer à Moshe ce qui bug. Voilà ce qui bug. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Bo, daber el paro. Melech Mitzrayim. Veishlach et bene Israël me'arzo. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les bene Israël n'entendent pas? Parce qu'ils sont toujours sous le joug de Pharaon. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ne serait-ce qu'entrevoir l'idée que c'est possible. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, veveti. C'est pas possible. C'est pas audible, quel que soit le langage. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours tachat et sous le joug de Pharaon. Donc, bah allez, cette fois, t'as été voir les bnei Israël, ça n'a pas marché, va voir Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vaidaber Moshe lifnei Hashem, les morts. Hen bnei Israël lo shamu elai. Ve'ech ishma'eni paro. Ve'ani aral sfataim. Alors, il y a plein de choses dans la réponse de Moshe. Moshe, il dit, les bnei Israël, ils m'ont pas entendu. Comment tu veux que Paro, ils m'entendent? Est-ce que c'est un bon argument? Pourquoi?
Parce que justement, il a le même langage que Paro.
Ben voilà, il a le même langage que Paro, et Paro, il n'est pas fatigué par la Avoda Kasha. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argumentaire de dire, si les enfants d'Israël m'ont pas entendu, comment tu veux que Pharaon, ils m'entendent?
Il n'a pas envie d'y aller.
Alors, ça d'accord, ça fait longtemps qu'on a compris, mais il a accepté maintenant d'y aller. Là, il ne dit pas, je ne veux pas y aller. Il ne dit pas, envoie quelqu'un d'autre. Il dit, ça ne marchera pas parce que. Mais le parce que me paraît un petit peu bizarre. Parce que les bénis Israël n'ont pas entendu, alors Pharaon, il n'attendra pas.
Il y a une logique quelque part.
Alors vas-y, dis-moi.
Si les enfants d'Israël n'entendent pas, combien pour toi, par exemple, Pharaon, qui est l'autorité, qui va refuser parce que...
Pourquoi?
La situation.
Pourquoi il va refuser? S'il est convaincant, Moshe. Non, alors on a expliqué, je suis d'accord avec toi, que laisser partir les bénis Israël, pour lui, c'est un effondrement économique, tout ça, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors, dis ça, que Moshe, il utilise cet argument-là, de dire, non, ça ne sert à rien que j'aille voir Pharaon, il n'acceptera jamais. Mais là, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, comme les bénis Israël, ils n'ont pas entendu, Pharaon, il n'entendra pas. Seulement, si tu m'amènes comme argument que Pharaon, il n'entendra pas parce qu'il ne veut pas l'effondrement de son pays, ça n'a rien à voir avec les bénis Israël. C'est quoi, ils n'ont pas entendu?
Ils n'ont pas entendu parce que Moshe était un circoncis d'élève, donc il parlait peut-être pas assez fort, peut-être sa voix ne portait pas suffisamment, parce que tu sais, un chef d'État, une personne qui est responsable, a le poids dans sa voix, on va dire. Non,
Je te rappelle que Moshe, c'est quand même celui qui va énoncer tout le livre de Devarim. Elle est à Devarim, ma chère Diber Moshe. Donc de dire Moshe, il ne sait pas parler, c'est quand même compliqué. D'autre part... Même s'il a du mal à parler, d'abord, on avait expliqué déjà qu'au buisson, il a été guéri de son... Non, là, il dit qu'il est à Ral Shvataim. Il va falloir qu'on comprenne ce que ça veut dire. Quand tu dis qu'il est incirconcis des lèvres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il bégaye? Parce que, je veux bien, mais on a un problème. Le bégaiement, il est dû à quoi d'après le Midrash?
Il
a fait, donc pas ses lèvres. Tu as raison. D'après le Midrash, c'est sa langue qui a un problème. Donc là, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a incirconcis des lèvres? Dis-moi la langue. C'est-à-dire?
Il trouve pas les mots.
Alors tu peux dire, il trouve pas les mots, c'est ce qu'on a dit. Il n'arrive pas à faire passer le message. J'entends. Mais à ce moment-là, quel rapport avec Pharaon? Ok? Alors venez, on essaie de comprendre tout simplement. On a oublié, à force d'essayer de comprendre en profondeur, on oublie les bases. À Pharaon, il va lui dire quoi? Sans rentrer dans la philosophie, il va lui dire concrètement, je suis le représentant du peuple juif, laisse-moi partir.
Laissez partir.
Oui, laissez partir, c'est là.
Il va dire, ils
ne
veulent même pas eux-mêmes.
Yahvé ! Voilà l'argument de Moshe. Il dit, mais les bnei Israël, ils ne m'ont pas entendu. Pour leur raison, l'homme échané. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas derrière moi. Je vais venir chez Pharaon au nom des bnei Israël. Il veut dire, ils sont où les bnei Israël? Ils ne sont pas là, ils ne sont pas avec toi. Tu es tout seul. Il y a une scène comme ça dans ce film d'anthologie, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ce film? Avec Coluche et... Ah, tu l'as pas vu?
Marcel.
Voilà, Baigneur Marcel. Ah, grand, grand film des années, je sais pas, 70-80, je sais pas. Et donc Coluche joue un représentant syndical des travailleurs de la ville. Et il vient se plaindre devant César. du comportement et de la police et tout ça machin, et tu vois que toute la ville le porte, et quand il commence à s'avancer à parler et que César il fait arriver petit à petit les soldats, alors petit à petit tu vois tous les gens qui s'en vont, et quand le centurion lui dit mais tu parles au nom de qui, il dit bah ils sont là tous mes copains, hein, pourquoi que moi, les autres aussi, et il se retourne, il n'y a plus personne. Donc Moshe il vient au nom de qui, hein, si les gens, les Bnei Israël, ils sont pas là, comment tu veux qu'il écoute? Vani aral sefataim. Asafa, c'est pas la même chose que alashon. Vous vous rappelez quand on avait dit, à l'époque de la tour de Babel, c'est il y a longtemps, on avait dit vayi kol haaretz safa echad ou dvarim achadim. On avait dit mazé safa, c'est pas lashon. La langue, c'est intérieur, c'est propre à chaque culture. Les Égyptiens ils parlent égyptien, les Hébreux ils parlent hébreu. Mais safa, c'est l'extérieur, c'est la culture, c'est l'ambiance. Et à l'époque de la tour de Babel, ils avaient des langages différents, mais ils avaient tous la même ambiance, la même idée, la même volonté de créer la tour. Ici, le problème de Moshe, c'est qu'il a Aral Sfataim. C'est-à-dire qu'il a deux cultures qui s'opposent, comme on l'a vu depuis le début de notre étude. Il est d'un côté égyptien, d'un côté hébreu. Et donc quand il vient voir Pharaon, il vient le voir en tant que quoi ? En d'autres termes, j'ai pas les mots parce que je sais pas quel langage faut utiliser. Chez Pharaon, je parle comment ? Chez les Bnei Israël, je parle comment ? Chez les Bnei Israël, j'ai essayé de leur parler comme à Pharaon. Ça n'a pas marché. Si maintenant je viens voir Pharaon et que je lui parle comme aux Bnei Israël, ça n'a pas marché non plus. Réponse de Dieu. Tov, vaydaber Hashem el Moshe vel Aaron. Ah ! Aaron, il était pas là, maintenant il est là. Donc ça veut dire qu'il va falloir à Aaron. Pourquoi faire ? Mais regardez. Vaitzavem el bnei Israël vel paro melech Mitzrayim leotzi et bnei Israël meretz Mitzrayim. Peut-être l'un des versets les plus incompréhensibles du texte. Donc vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron, ça c'est facile. Dieu a dit à Moshe et à Aaron. Vaitzavem. Deux, il leur a parlé pour qu'ils ordonnent. Et de quoi ? Vayetzavem el bnei Israël vel paro melech Mitzrayim leotzi et bnei Israël meretz Mitzrayim. Ils doivent donner l'ordre à qui ? De faire sortir les bnei Israël d'Égypte ? Et au bnei Israël et à Pharaon. Le texte est limpide. Il nous dit pas voilà, tu vas ordonner à Pharaon de laisser sortir les bnei Israël d'Égypte. Ça j'aurais compris. Ou alors de dire tu vas donner l'ordre au bnei Israël de sortir. Ça aussi j'aurais compris. Mais là, il dit à Pharaon et au Béné Israël de faire sortir les Béné Israël.
Il y a deux langages différents. Il y a un langage pour Pharaon et un langage pour Béné Israël.
Non, justement pas.
Et les Béné Israël, c'est Aaron qui parle.
Oui, mais...
Par contre, Pharaon, c'est Moshe.
Mais oui, mais justement, toi, ce que tu dis, c'est la logique. Tu dis, il y a un langage pour Pharaon et un autre langage pour Béné Israël, à savoir, Pharaon, il faut lui ordonner de laisser sortir le peuple. Et les Bnei Israël, il faut leur ordonner de sortir. Sauf que ce n'est pas ce qui a marqué. La logique voudrait ce que tu dis. Mais là, il y a marqué qu'il doit ordonner, et Moshe et Aaron doivent ordonner et à Pharaon et aux Bnei Israël de faire sortir les Bnei Israël. Mon problème, vous le comprenez, c'est en quoi les Bnei Israël, ils doivent faire sortir les Bnei Israël. Oui, mais ce n'est pas ce qui a marqué. Si tu me dis, aux Bnei Israël, ordonne-leur de sortir. Pas de faire sortir. Comme s'il y avait des Bnei Israël qui étaient des... c'était eux qui empêchaient les Bnei Israël de sortir.
Il y a deux Bnei Israël.
Alors c'est qui ?
Il y a le peuple.
Ouais.
Il a sûrement ses représentants auprès de Pharaon.
Ah, tu dis, il y a les hauts dignitaires du peuple juif, ouais. Et c'est eux qui doivent expliquer. Vous savez que, évidemment, toutes ces parachutes-là sont très liées à Pessah, la Seder, tout ça. Il y a une halakha très importante du soir de Pessah. C'est qu'on a, nous, le devoir. Alors, évidemment, tu ne connais pas tout le monde dans l'univers, mais dans notre communauté, par exemple, d'être sûr qu'il n'y a personne dans la communauté qui n'a pas de quoi faire le Seder. C'est halakha b'shulchan aruch. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les pauvres, non seulement ils aient arba kosot, ils aient de la matzah, mais ils aient également un coussin pour pouvoir cela jouait Ben Chorin. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout le monde soit libre ce soir-là. Le Meshech Chochma, Rabbeinu Simcha HaKohen, Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, donc un des grands commentateurs du début du XXe siècle, il dit quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre ce verset. Pour comprendre ce verset, il pose la question du verset d'après. Il dit, ce verset, c'est, qu'on a lu, c'est l'ordre de Dieu à Moshe et à Aaron d'aller faire le travail. Tu t'attendrais à ce que le verset suivant, ben on voit Moshe et Aaron aller faire le travail. Or, c'est pas le cas. Tu as tout un passage énorme, en fait, qui va du verset Yud-Dalet jusqu'au verset Kaf-Zayin. Donc, on a 13 versets, 14 versets, qui, a priori, n'ont absolument rien à voir, qui font une espèce de coupure. C'est le chéni de la paracha. Ça a l'air d'être une énorme coupure. Tu te dis, mais ma kécher. Et juste après, on revient.
On dirait qu'on a fait un recensement.
Et on te dit quoi? On te dit « Elev rachet bet avotam, bene reuven, bechor Israël. » Alors, c'est qui voilà les chefs des maisons. Et on a les enfants de Reuven, qui est le Bechor d'Israël, donc de Yaakov. Hanoch, Upalou, Chetzron, Vekarmi, Elle, Mishpechot Reuven. Ou Bene Shimon, Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachin, Vetzora, Veshaul Ben Aknaanit, Elle, Mishpechot Shimon. Veele, Shemot, Bene Levi, Letoldotam, Gershon, Ukeat, Umerari. Ou Shnechaye Levi, Sheva, Ushloshim Shana, Umeat Shana. Bene Gershon, Livni, Veshimil, Mishpechotam. Ou Bene Keat, Amram, Veitzar, Vechevron, Veuziel. Ou Shnechaye Keat, Shalosh, Ushloshim, Umeat Shana. Ou Bene Merari, Machli, Umushi, Elle, משפחות הלוי לתולדותם ויקח אמרם את יוכבת דודתו לא לאישה ותלד לו את אהרון ואת משה ושנה חיי אמרם שבע ושלושים ומאה שנה ובני יצער קורח ונפג וזכרי ובני עוזיאל מישאל ואל צפן וסטרי ויקח אהרון את אלישבע בת אמינדב אחות נחשון לא לאישה ותלד לו את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואת איתמר ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף אלה משפחות הקרחי ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לו לאישה ותלד לו את פנחס אלה ראשי אבות הלוויים משפחותם הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרון אלא הוא תאמין ואי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים אסי פרטי יום רוויה.
C'est-à-dire que c'est une société très clanique, c'est-à-dire que les chefs de tribus, eh ben, qui ne voulaient pas perdre leur pouvoir, quelque part.
Oui, mais attention.
Il y a juste
Reuven, Shimon et Lévi, ils sont où les autres? On t'a l'impression qu'on t'a fait un recensement pour arriver à la famille de Moshe.
On a affaire aussi à, enfin, je ne sais pas, au Shimon
intervient. Mm-hmm. Ah, Korach.
Korach et comment il s'appelle son... Celui qui était avec lui, il était de Reuven.
Ah non, tu parles de quoi? De Datan Vaviram.
Ouais.
Datan Vaviram également, Bené Reuven. Nous? C'est un problème cette histoire. Comment est-ce que... Pourquoi ils sont là? Azon, je vous dis, le Meshech Chochma, il dit incroyable. Il dit, c'est très simple en fait à comprendre. Et ça explique pourquoi il manque une personne dans la liste. Dans la liste, il manque Myriam. Ils t'ont mis tout le monde, machin, ils t'ont pas mis Myriam. Alors tu vas me dire, bon, ils ont pas mis les autres filles, il y avait certainement d'autres filles également. Oui, d'accord, mais les autres filles, on les connaît pas. Myriam, on la connaît. C'est bizarre. Et il nous dit, en fait, c'est très simple. Il écrit ça, le Meshech Chochma, en 1917, juste après les révolutions russes, qu'il a vécues. Hein. Il habite à Dvinsk, il est en plein dedans. Quoi. Et il explique la chose suivante. Il dit « Yitachen ki gam az ». Il dit « Il y avait également à l'époque, comme aujourd'hui, au sein de ceux qui persécutent le peuple juif, des juifs qui persécutaient d'autres juifs, parce qu'ils étaient proches de l'État. » Maintenant, évidemment que les juifs, ils étaient tout gagnants, parce que les juifs, ils préféraient être serviteurs, esclaves d'un juif, plutôt que d'un égyptien ou d'un russe. Parce que même s'ils étaient maltraités, ils étaient quand même mieux traités que s'ils étaient chez l'Égyptien. Donc c'était un win-win. Il nous dit le Meshe Chochma, et c'est qui les juifs qui asservissaient d'autres juifs? Les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. C'est qui les juifs qui asservissaient d'autres juifs? C'est les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Et c'est pour ça que c'est eux qui sont mentionnés ici. Ah, Lama, c'est eux qui asservissaient. Ben, c'est les grands. C'est les patrons. Quand ils sont arrivés en Égypte avec Yosef, qui c'est qui a pris le contrôle d'Ibné Israël Begoshen? Baruch que c'est Réhouven, Shimon et Lévi. C'est les grands.
Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait un conflit entre Yehuda et Yosef. Nachon.
Et tu te rappelles de ce qui s'est passé avec Yehuda? Va y arrêter Yehuda. C'est-à-dire qu'il s'est montré au final, à la fin de Bereshit, comme étant celui qui reprend les rênes. Nachon, du peuple juif. Pas des relations avec Pharaon. Pas des relations avec l'Égypte. Il semblerait que Yehuda, d'ailleurs, c'est pas il semblerait, on nous dit dans Chazal, pourquoi est-ce qu'il a envoyé Yehuda avant les autres, Yaakov? Bet Midrash. Donc Yehuda, il est mémouné à la Torah. Maintenant, quand ils sont arrivés, les aînés, je vois la scène, les aînés, Réhouven, Shimon et Lévi, qui étaient plus âgés, qui étaient des adultes, ils viennent voir Pharaon, ils disent, bon, c'est nous les représentants du peuple juif, yallah. Maintenant, Bichlal, le Meshech Chochma, il dit, c'est bien que ce soit passé comme ça, parce que ça leur a permis de se sentir encore in. Parce qu'on est juste après les brachot que Yaakov y donne, dans Parashat Vayechi. Et bon, Shimon, Lévi et Réhouven, ils ont pas... C'est pas folichon, les brachot qu'ils ont reçus, à cause de ce qu'ils ont fait. Donc, il se dit, si ils n'avaient pas été eux qui gèrent le peuple juif, ils se seraient sentis tellement mis à l'écart que peut-être qu'on les aurait perdus. Mais, de facto... Ben, ça veut dire que c'est eux qui étaient des collabos.
Mais Lévi, c'est des rabbins.
Et alors, tu peux pas avoir un rabbin collabo?
Comment?
On peut pas avoir des rabbins collabos? Ça n'existe pas? Hein, tu veux que je le dise une troisième fois? On peut?
Je cite pas de
nom. Non, je vais pas citer de nom. Ah, d'ailleurs, c'est pas forcément négatif. Il y a des fois où c'est très important que le rabbin il soit en bon terme avec l'état dans lequel il est. Quand on est en exil, c'est important. C'est important d'avoir un rabbin qui est l'interface avec les goïms. C'est chachouv. C'est chachouv aussi de se rappeler que donc ça veut dire que très souvent ce qu'il va dire, c'est l'obidiouk. N'oublie pas que c'est une interface. Que des fois, tu es obligé de...
Il pourrait expliquer certaines paroles qui paraissent bizarres.
Aujourd'hui, tu parles?
Oui.
Oui. On a envie de penser que ce n'est uniquement pour ça qu'il y a ces paroles-là, et pas parce que l'exil a pris le pas sur leur identité profonde. Barreau. C'est-à-dire, donc quoi qu'il en soit, ça explique pourquoi l'ordre est donné et à Pharaon et aux Bnei Israël de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ok ? Maintenant, à la question que vous avez posée, qui n'est pas marquée là, mais que vous avez posée quand même, de savoir, oui, il faut bien que les Bnei Israël y veuillent, s'ils ne veulent pas. Si eux-mêmes, ils ne veulent pas sortir, ça c'est vrai. C'est un autre débat qui est emmené par le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Lutzitz, il y a 500 ans à Prague. Le Kli Yakar, lui, effectivement, il explique que les Bnei Israël, ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Ils sont trop bien en Égypte.
Malgré l'asservissement.
Malgré l'asservissement, du moins, avant, ils sont trop bien. Il y a la servitude, donc ils ne sont plus bien. Ils disent « ouille, ouille, ouille », mais sauf qu'une fois que la servitude s'arrête pendant les Makotes, ils ne reveulent plus. Ben ça y est, c'est redevenu bien l'Égypte. Je vais te dire, j'ai acheté, avant le Seger, deux séries de BD à mes enfants pour passer le Seger. Et bon, alors un, j'ai mon côté Ashkenaz qui a repris de dessus, mais... Je l'ai calmé avec la deuxième série, qui est une série séfara de la Méhadrine. La première série, c'est une série pas mal du tout, qui s'appelle Sobibor, sur le camp d'extermination de Sobibor. Mais en fait, ça raconte l'évasion de Sobibor, bien dessinée et racontée pour des enfants, et au travers d'une histoire, d'une famille et tout ça, machin. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quatre livres, machin. Et l'autre série... C'est Don Carlos Milisbon. Don Carlos Camardeno, ou moi je suis je ne me rappelle plus. Don Carlos, comment?
Camondo.
Camondo, ouais. Il y a un truc dans le style. Il y a K et Do à la fin.
Cardozo.
Non, il n'y a pas de Zo. Bon, un truc dans le style, je ne me rappelle plus exactement, qui était un des amiraux en chef de la flotte portugaise, sous l'Inquisition, et qui était juif. Mais évidemment, caché. Évidemment caché. Et donc toute l'histoire, c'est de voir comment, à un moment donné, il va se faire découvrir, il est jeté en prison de l'Inquisition, toute une histoire. Maintenant, dans l'histoire, il y a à un moment donné un des dirigeants de la communauté juive qui, lui aussi, avait une identité truc, mais qui est découvert et qui est pourri en prison depuis pas mal de temps. Et ce Don Carlos, il met en place une opération pour le sauver, pour le faire s'enfuir avec le premier bateau qui part au Brésil. Et donc, ils réussissent, machin. Et sauf que, eh ben, au final, tu vois que les mecs, ils arrivent au Brésil, les Juifs, et ils sont... Genre, c'est la terre promise. Ils sont arrivés au Brésil. Zéou. Enfin, Dieu a entendu nos promesses, il nous a sortis de l'exil, et on est arrivés au Brésil. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le bateau pour aller de l'autre côté? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire ? Donc si les Bnei Israël ne veulent pas sortir d'Égypte parce qu'ils sont bien là-bas, ou alors ils sont prêts à sortir de France parce qu'ils se disent la France, ça commence à sentir le roussi, il y a des caricatures qui sont interdites, et si on les dit, on se fait décapiter, et d'un autre côté, tu te balades rue de Rivoli et tu vois des croix gammées partout. D'ailleurs, c'est vrai, je partage les propos d'un très bon ami à moi sur la toile, qui a dit, mais il serait peut-être temps d'expliquer à tous ces antisémites, néo-nazis, tout ce que tu veux, que ça fait tellement longtemps qu'ils font des tags antisémites, il serait peut-être temps qu'ils apprennent à la faire bien, la croix gammée. Parce qu'à chaque fois, ils ne la font pas comme il faut. À chaque fois, ils ne la font pas dans le bon sens. C'est quand même incroyable. Je veux dire, si déjà, faites-les bien. Bekitsour. Alors, tu as des gens qui te disent, bon, je suis prêt à partir de la France parce qu'effectivement, ça sent trop le roussi, donc je vais partir au Canada. Hein, c'est la nouvelle, c'est le nouvel Eldorado. C'est plus tellement in maintenant Miami. Maintenant je trouve que le in c'est le Canada plus. Il y a mieux. Ah oui, Vadaï. Mais je sais pas si c'est tellement à la mode en ce moment. Bon, les Émirats Arabes Unis. Nous, chez Bekitsour, vous comprenez qu'ici on a un grand problème, c'est les Israéliens ne veulent pas sortir. Tu peux pas les forcer. Enfin si, Dieu il va les forcer justement. Mais ça on va voir. Donc, finalement, Moshe revient. Alors juste, on a lu très vite la généalogie donc des Bnei Israël jusqu'à Moshe. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes quand même à souligner. Donc je reprendrai simplement le verset Kaf. Ok, du chapitre 6. Vous l'avez ? Vayikach Amram et Yocheved Dodato. L'Oleïcha va t'aider l'eau et Aaron et Mouvet Moshe. Donc, ça veut dire que Alpi Torat Moshe, Moshe, il est Mamzer. Ah oui. Parce que d'après la Torah de Moshe, dans le livre de Vaïkra, Parashat Arayot, on n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Ça fait partie des relations interdites. Or là, c'est clairement dit que Amram se marie avec Yocheved, sa tante. Donc d'après la Torah de Moshe, Moshe il peut pas naître. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de problème, c'est avant la Torah. Nachon. Mais ça montre qu'il y a une limite à la capacité de Moshe à dévoiler la Torah. Et c'est pour ça qu'il va falloir Yehoshua après lui. Ok ? On voit déjà dans les prémices le fait qu'il y a un truc qui va bloquer une transmission complète de Moshe de la Torah. Alors, si on a parlé de Moshe, il faut parler également de Aaron.
Alors, pourquoi c'est pas Yehoshua directement qui a été choisi ?
Ah, pourquoi c'est pas Yehoshua directement qui a été choisi ? Parce que dans le désert, il faut un Lévi. Il ne faut pas encore la tribu d'Ephraïm. La tribu d'Ephraïm, c'est pour rentrer en Israël. Ok ? Alors, si on a parlé de Moshe, il faut deux secondes s'arrêter sur le verset qui parle de Aaron, au verset Kaf Gimel. On nous dit, Vaïkach Aaron et Elisheva bat Aminadav achot Nachshon lo leisha. Vatel et lo et Nadav et Aviou et Elazar et Itamar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Aaron est le père de tous les Kohanim. Ça, on le sait. Aaron. Mais c'est qui la mère de tous les Kohanim ? C'est qui la maman de tous les Kohanim ? Hein ? Elisheva. C'est-à-dire, non seulement la tribu d'Yehuda, mais la famille de la Malchut. C'est la sœur de Nachshon ben Aminadav, qui est le chef de la tribu d'Yehuda. En d'autres termes, les Kohanim sont shayachim, sont reliés à la royauté mitzad ima. Du côté de la mère, ils sont directement liés à la royauté d'Israël. Ce qui va expliquer comment c'est possible qu'à un moment donné de l'histoire du peuple juif, ce sont les Kohanim qui prennent la royauté. Hanouka. Ok ? Et c'est totalement lié directement à ce qui s'appelle Torat Imecha. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. On en parlera quand on arrivera à Hanouka en détail. Mais il faut savoir que les Kohanim sont liés à la royauté de par leur mère. Ok ? Oui, évidemment. Sauf Aaron, bien sûr. D'accord. Top, c'est bien. Alors donc, maintenant on peut arriver donc au chapitre Zayn. Mais juste avant le verset Lamed, donc on a terminé la présentation et donc on nous dit Vayomer Moshe Lifnei Hashem. Vraiment, c'est l'impression d'avoir eu un épisode qui s'est arrêté et tu reviens la semaine prochaine et tu dis previously dans Parashat Vayera et on te remet le verset et on te dit Vayomer Moshe Lifnei Hashem El Ani Aral Svatayim Ve'Echishma Elai Paro. Pour que tu saches bien que c'est de ça qu'on parle maintenant. Yomer Hashem el Moshe, re, natatiha Elohim le paro, ve Aaron achicha yé nevi'echa. Ouah. Ata, pour paro, atatie Elohim. Ve Aaron ou yé navi. Navi, c'est celui qui transmet la parole de Elohim. Alors quoi, est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, Moshe, il est devenu divin? Non. Moshe, c'est Ben Adam, et il est plus grand que tout le monde, mais il reste Ben Adam. Et la Mazé Elohim, dans le langage du Tanakh, Elohim, c'est une valeur absolue. C'est pour ça que le Tanakh appelle les Shoftim Elohim. Elohim lotekalel, ça veut dire que tu n'as pas le droit de mépriser tes juges. Parce qu'ils rendent une justice, donc la Torah, et donc c'est une valeur absolue. Face à Pharaon, il va présenter le dévoilement de Dieu, du divin. Donc il dit, Ine, nani natatira Elohim le paro, va Aaron, achicha yenevierha. En d'autres termes, tu n'es pas Aral Sfataim, puisque Aaron est avec toi. Donc tu sais très bien quel langage tu dois utiliser. Atate daber et kol asher atzaveka, va Aaron achicha yedaber el paro, ve shilach et bene Israël me arzo. Donc, à qui Moshe il doit parler ? À Aaron. Enfin, il n'y a pas marqué que tu parleras à Aaron. À ta te daber et kol asher atzaveka. À qui ? À tout le monde. Tu parles. Mais après, il y a Aaron qui vient et qui traduit. Ok ? Donc, ça veut dire que quel est le langage qu'on doit utiliser à Pharaon ? C'est quoi le langage ? On a dit, Moshe, il a un double langage. C'est ça son problème. On aurait été tenté de penser qu'à Pharaon, il faut tenir un langage pharaonique. Égyptien, international. La Torah nous dit non. Celui qui parle à Pharaon, c'est qui ? Celui qui traduit ? C'est Aaron. Donc ça va être quoi comme langage ? Juif. Mais vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on pose la question... Avalama tempo. Quand on te pose la question, pourquoi vous êtes là, les Juifs ? Pourquoi vous êtes en Israël ? Vous faites des problèmes, quand même. C'est quoi la réponse qu'on doit donner ? Non, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut dire, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Parce que c'est Dieu qui a donné la Torah, qui a créé le monde, et que dans le monde qu'il a créé, il a donné la Torah, et dans cette Torah, il a clairement précisé qu'il a donné cette terre au peuple d'Israël. Ah, en plus de ça, hein, il se trouve qu'on a aussi un mérite historique. que le peuple palestinien, c'est une invention, que ça n'existe pas et qu'on était là avant et qu'en vérité, le premier peuple national qui est là, si on met de côté les Cananéens qui n'existent plus aujourd'hui, eh bien c'est nous, machin. Mais ça, ça vient après. D'abord, il faut dire à l'ONU qu'il y a Kadosh Baruch Hu Natan Lanu. Et c'est là que le bât blesse. Puisque c'est pas ce qu'on fait. On n'arrête pas d'expliquer, et de manière brillante, qu'on est légitime historiquement parlant, mais on n'ose pas dire clairement Biglal chez Hachem Natan Lanu. Rubi Rivlin, Bibi Netanyahu. Faudrait qu'ils veuillent. Agave, ils le savent. Ils le savent très bien.
Pourquoi ?
Pourquoi ils le savent ? Parce que j'ai entendu une... Je vais te dire. J'ai entendu une conférence il y a, là pendant le Seger, très sympathique, qui amène un postulat de départ qui a dit... voilà, je vais vous dire une phrase. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais quand vous y réfléchirez, vous allez être d'accord. Ça n'existe pas quelqu'un qui est au niveau sentiment politique de droite en Israël et qui n'est pas quelque part religieux. Il y a plein de gens de droite pas religieux, bien sûr. Mais la droite laïque, c'est un non-dit. Ça n'existe pas. Parce qu'au final, c'est quoi la droite, ça veut dire quoi en Israël? Ça veut dire l'attachement à la terre d'Israël et le nationalisme et tout ça, machin. Ok, mais d'où il vient? D'où il est venu, Herzl? Pourquoi ici? C'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, c'est marqué dans la Torah. Et ils le savent tous. C'est-à-dire que Ben Gurion, quand il n'est pas religieux, mais Ben Gurion, il est fana atomique de Tanakh. C'est-à-dire le Tanakh, c'est son point de départ. Alors il ne veut pas pratiquer les commandements, psader, mbaya. Mais il est lié, qu'il le veuille ou pas, à Dvar Hashem. Donc c'est une réalité. Il est temps de le dire. Il ne faut pas avoir honte de parler de Dieu. On a honte, des fois.
En plus, ça n'engage que les Arabes comprennent, de
toute façon. Ça n'engage... Ah bah évidemment. Alors ça, évidemment, si tu parles du monde arabe, c'est un langage que... c'est que ce langage-là qu'ils comprennent.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr. C'est-à-dire que Bibi, il dit, c'est avec l'effort qu'on fait la paix. Mais Rav Cherki, il a expliqué, la semaine dernière, dans un cours qu'il a donné sur la mashmaout de ce qu'on est en train de vivre et la paix avec les Émirats Arabes Unis, ce que tu veux, machin. Il dit, il faut bien comprendre un truc. Comment ça se fait que finalement, la reconnaissance d'Israël, elle est venue d'abord et avant tout de pays avec qui on n'a pas de contentieux territorial? Il dit, bien, c'est parce qu'on n'a pas de contentieux territorial avec eux qu'ils peuvent véritablement lire le Coran. Et que leur relation à nous peut être lue dans le Coran. À partir du moment où tu as un problème territorial, tu t'en fiches de ce qui a marqué, tu as un problème territorial. Mais vu que eux, à aucun moment on est venu, on a l'intention de conquérir les Émirats, et eux, ils n'ont pas l'intention de conquérir ni Israël, ni la Palestine, vous avez bien compris pourquoi j'utilise les deux, ils peuvent lire ce qui a marqué dans la sourate 5 du Coran. Que la terre d'Israël a été donnée aux Juifs. C'est noir sur blanc, quoi.
Chacun dit ce qu'il veut, ce qui l'intéresse.
Non, c'est-à-dire que tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait que la terre d'Israël a été donnée aux Juifs et aux musulmans. Enfin, que ceux qui étudient pour de vrai. C'est pas un débat. Seulement, ils te disent, mais que pour l'instant, ils sont dans un autre point de conquête. Donc, ça veut bien dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. À Aaron, c'est lui qui l'est envoyé chez Pharaon. Tu dois venir avec un message. Juif ? Et mal à saute.
Excuse-moi, oui. J'en ai un peu sujet, mais comment est-ce que tu fais pour faire entendre ça à l'Europe qui est complètement laïque, qui a perdu son rapport à Dieu ?
Oui, c'est pour ça que j'ai dit cette fois. Si tu te ramènes avec facilement à l'écoute des musulmans mm-hmm. que de l'Europe.
Ouais. Si tu te ramènes à l'ONU, on va dire t'es gentil, mais.
Faux. Si tu te ramènes à Bruxelles, on va te dire. Ça, je suis d'accord. Mais si tu vas à l'ONU, je te rappelle que le siège central de l'ONU, pour l'instant, il n'est pas à Jérusalem, il est à New York. L'ONU est dirigée de manière quand même assez évidente par les États-Unis. Les États-Unis ne sont absolument pas laïcs. Si tu veux parler au monde occidental, c'est à l'Amérique que tu parles, avant de parler à l'Europe. L'Amérique, elle n'est absolument pas laïque. Et l'Amérique, elle sait tout à fait ce que ça veut dire Dvar Hashem. Et quand tu viens et que tu lui dis « God », c'est lui qui a dit ça, eh bien l'Américain, il respecte. L'Américain, à chaque fois qu'il va acheter un truc à la Macolette, il sort son billet d'un dollar et il a marqué « In God we trust ». Alors il n'est pas forcément pratiquant, mais les États-Unis ne sont pas un pays laïque du tout. L'Europe, effectivement, se laïcise. C'est terrible pour l'Europe. D'ailleurs, ce n'est pas le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas un pays laïque. La Grande-Bretagne est un pays avec une religion d'État, l'anglicanisme, mais qui tolère toutes les autres religions. Donc ça veut dire que tu peux tout à fait parler aussi divinité avec le Royaume-Uni. Pour ce qui est de la vieille dame, pour ce qui est des pays latins d'Europe qui ont décidé de se couper de leurs racines théologiques, effectivement, tu vas dire ça, ils vont te dire « Ah, tu es un fanatique », c'est pas grave, de toute façon, ils sont déjà conquis par d'autres fanatiques.
Qui eux comprennent le langage.
Mais bien sûr. Donc soit ils vont se réveiller à leur théologie, soit ils seront surpassés par une autre théologie. Ce qui me paraît assez évident. Maintenant, ça ne veut pas dire que je remets en cause l'idée de la laïcité. C'est-à-dire l'idée de dire que dans l'espace public, chacun puisse faire ce qu'il veut, machin. C'est un gamour. Mais de vouloir rejeter en profondeur une identité théologique, je trouve ça erroné.
Mais la laïcité, ce n'est pas le rejet de la religion, c'est que chacun respecte...
Non, je te dis, c'est que chacun dans l'espace public, chacun puisse faire ce qu'il veut. Oui, c'est-à-dire que dans l'espace public, il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Et dans la sphère privée, c'est même pas le débat, parce que c'est pas une question de laïcité. Tu ne rentres pas chez les gens. Mais ça veut dire que dans l'espace public, il n'y a pas d'obligation.
Je ne suis pas d'accord.
Pourquoi ?
De plus en plus, on entend des gens qui veulent interdire la Brit Mila, par exemple.
Mais c'est pas à cause de la laïcité. Mais c'est pas à cause de la laïcité qu'ils veulent interdire la Brit Mila. Non, aujourd'hui c'est une religion de la laïcité, donc tu balances la laïcité, ça fait bien, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent interdire la Brit Mila. L'argument de la Brit Mila, enfin contre la Brit Mila, il est double. Il est un, que c'est un acte chirurgical et que donc c'est absolument intolérable que ce soit pratiqué par des gens qui sont pas des chirurgiens. Ça c'est premier argument. Deuxième argument,
on n'a pas demandé l'autorisation.
Voilà, qu'on n'a pas demandé l'autorisation à l'enfant de lui faire, de lui porter une atteinte à son corps de manière irréversible. Voilà les deux arguments. Ça n'a rien à voir avec la laïcité.
Mais c'est dans la vie privée.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. On peut porter des combats, d'autres combats, mais qui sont...
Non, mais c'est des arguments, mais on
oui, parce qu'aujourd'hui... Non, c'est pas la laïcité. Mais c'est la sphère privée. Mais c'est la sphère privée. Mais c'est la sphère privée, donc la sphère privée, on s'en fiche. Au niveau de laïcité, les gens, ils s'en fichent que dans ta maison, tu mettes un tapis par terre, même les plus laïques. Ils te disent pas que dans la maison, tu peux pas mettre un tapis par terre et te prosterner 5 fois par jour. Ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent pas, c'est que tu fasses ça dans la rue. C'est autre chose. Maintenant, pour ce qui est de la Brit Mila, ils te mettent ça sous couvert de laïcité, parce que dire de laïcité, ça fait bien, ça fait genre t'es du côté de la lumière. Mais en fait, c'est pas ça les arguments. Puisque la laïcité, la Brit Mila, elle se fait pas dans la rue. Elle se fait dans la synagogue, en général. Donc, les mecs qui veulent interdire ça parce qu'ils sont pas laïcs, ils sont juste anti-autre chose. Et donc, ils te disent, attention, c'est dans des synagogues, alors que ça devrait être en milieu hospitalier, machin, nanana. Et en plus, on n'a pas demandé la permission à l'enfant. Agave, comment est-ce qu'on se bat contre ça? C'est quoi les réponses qui sont pour l'instant données par les rabbins européens? Parce que c'est là-bas que les combats se mènent pour l'instant là-dessus.
Mais c'est dans la Torah, Dieu nous a demandé.
Oui, non, mais d'accord, mais. C'est dans la Torah. Mais comment est-ce qu'on va arranger, qu'on va pouvoir donner. Ça, ils le disent, tu vois, par exemple, pour la Brit Mila, c'est pas caché que c'est un commandement du judaïsme. Mais comment ils vont répondre au fait que c'est un acte... Alors, ils répondent pas à la question chirurgicale, parce qu'ils veulent pas y répondre. Parce que sinon, à un moment donné, ils vont devoir accepter l'idée que seul un moelle chirurgien a le droit de pratiquer la Brit Mila. Ils sont très contents pour l'instant de ne pas y répondre, parce que t'imagines...
Il y a des médecins juifs partout.
Oui, mais il y a une différence entre médecin et chirurgien. Tout le monde n'est pas chirurgien. Donc... Je pense que pour l'instant, ils sont très contents de ne pas devoir répondre à ça. Et l'autre question de... on pratique un acte... on donne une plaie à l'enfant irréversible et qu'on ne lui a pas demandé. Ça, ils ont une réponse déjà toute faite, les rabbins, c'est de dire, oui, mais on fait exactement pareil chez tous les enfants quand on leur fait des vaccins. Quand on leur fait des vaccins, on donne un mal à l'enfant sans qu'il lui ait demandé, sans qu'il ait demandé quoi que ce soit. Et il y a des risques. Parce que c'est quoi? Ils te disent quoi? Ils te disent, il y a des fois des brites milotes qui tournent très mal et machin. Non, non. Tu dis, bah, il y a des fois des statistiques très rares, mais il y a aussi dans les vaccins, des fois des gens, des trucs qui tournent mal, machin. Bon.
C'est pour ça que les hein? mêmes, il y a peut-être l'essai du nouveau vaccin.
Ah, je veux pas.
C'est quelqu'un qui est venu, je sais pas
quoi. Ouais. Non.
Certains parmi ceux qui sont contre la brite sont également contre les vaccins.
Ça va, non, j'ai la brioute. Non, pour ce que tu dis, la shrita, c'est encore un autre problème. Parce que la shrita, alors ils vont te dire aussi que l'argumentaire de dire que c'est pas fait dans des conditions d'hygiène, machin, mais ça, à la limite, tu peux répondre facilement en disant, bah, viens voir, t'as qu'à faire des endroits de shrita qui répondent aux conditions d'hygiène, ça, c'est pas un problème de répondre aux conditions d'hygiène. Après, il y a le débat de... Voilà, ça fait souffrir l'animal, machin. Mais ça, alors ça va être un débat de vétérinaire. C'est un débat de vétérinaire. C'est pour ça qu'en l'occurrence, mon oncle, c'est lui qui est responsable de la shrita, enfin des débats de la shrita en France, sous mission officielle du grand rabbin de France, parce que avant d'être rabbin, il était vétérinaire. Donc il vient avec un message scientifique en disant que d'afka la shrita, c'est mieux pour ne pas faire souffrir l'animal. Donc ça, c'est un débat, si tu veux. Ok,
c'est pas les mêmes qui critiquent la shrita.
Ça va venir, bien sûr. Mais ouais. C'est pas une question de laïcité, là aussi.
Mais
c'est pas une question de... Bien sûr, c'est prétexte. Non, la laïcité, c'est un prétexte. Parce qu'ils s'en fichent. C'est de quoi la laïcité? On s'en fiche de savoir si la bête, elle est abattue par un couteau ou par un pistolet. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit pas religieux.
C'est ça, donc
mais oui, mais l'argument, c'est pas ça qu'ils disent. Mais c'est pas ça qu'ils disent comme argument.
C'est parce que c'est un prétexte. Ils apportent des prétextes une fois.
Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ils veulent pas que ce soit religieux. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec le. Ils ont un problème avec le fait que ce soit juif ou musulman, en l'occurrence. Ils veulent pas que ce soit laïque. Ils veulent juste que ce soit pas ça ou pas ça. C'est pas que je suis fan de la laïcité. Je veux pas que ce soit comme ça ou comme ça. Parce que au final, qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est pas pour toi.
Il y en a aussi.
C'est quoi, il y en a aussi?
C'est
quoi?
C'est pas parce que c'est juif ou musulman.
Mais en quoi la vache, elle est ni juive ni musulmane? Donc en quoi c'est laïque d'abattre un animal ou pas? Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça se passe pas dans l'espace public, ça se passe dans l'abattage. Donc on te met l'autocollant laïcité pour que ça passe. Mais en fait, l'argument, il n'est pas laïque. Quand tu dis j'ai un problème avec les prières de rue, là tu peux jouer l'argument la laïcité dans l'espace public, machin, nan, nan. Mais l'argument dans des endroits qui ne sont pas l'espace public, c'est pas laïque. Mais tu mets l'autocollant pour que ça passe. Parce que ça ne va pas le faire si tu dis moi je veux interdire l'abattage rituel parce que j'ai un problème avec le rituel. Donc je le dis pas. Je dis soit c'est au nom de la laïcité, soit je dis que le couteau c'est quand même vachement plus barbare que l'étourdissement, ou alors je dis que les conditions d'hygiène sont déplorables là-bas, et ainsi de suite.
Non, mais on entend abattage rituel, on n'entend pas couteau ou truc.
Oui, mais qu'est-ce qui les dérange hein? Mais qu'est-ce qui les dérange dans l'abattage?
Ce qui est interdit, c'est l'abattage rituel.
Mais encore une fois, l'abattage. Les mecs, tu crois que le mec, quand il va chez Auchan, je sais pas si on peut dire des marques, le mec, quand il va chez le boucher et qu'il va acheter sa viande, il s'en fiche de savoir si il y en a un qui a dit « Baruch atah Hashem, lifnei ashrita » ou qu'il a dit sa sourate en arabe avant de faire sa shrita. Tu crois qu'il y pense à ça? Non, il y pense pas. Le lobby, il est fait sur le fait que « Non, la souffrance animale, tu prends, c'est terrible et tout, machin. » Donc, je veux que tu saches que cet animal-là, on l'a fait souffrir, on l'a égorgé au lieu de l'abattre avec un pistolet. Et donc, je veux la traçabilité des animaux pour que tu saches. Entre parenthèses, moi, j'ai déjà dit à mon oncle, ça reste entre nous, évidemment, hein, personne ne sortira pas d'ici, de cette pièce, mais moi, j'ai déjà dit à mon oncle que tous les problèmes, parce que c'est quoi, je parle pas des musulmans, mais la peur dans le monde du cachère. C'est quoi la peur sur la traçabilité? Pourquoi ils ont tellement peur de la loi sur la traçabilité des aliments? Parce que tu, à partir du moment où tu peux tracer, tu peux faire du boycott. Bon, d'accord, mais moi j'ai dit, mais on s'en fout. Si la viande cachère, elle est faite pour les juifs, ils ne vont pas boycotter la viande cachère, les juifs. Il dit, non, mais tu ne peux pas, parce qu'il y a un manque à gagner terrible. Pourquoi ? Bah, parce que plus de la moitié de la bête qui est shritée, elle va chez les goïms.
Les meilleurs morceaux, d'ailleurs.
Et pourquoi elle va chez les goïms ? Parce qu'ils s'entêtent à ne pas vouloir faire apprendre à leur shochatim comment on enlève le nerf sciatique. Alors que on sait le faire. Tous les shochatim en Israël, ils le font. À Osherad, il y avait du filet mignon pendant toute la fête. Il n'y a aucun problème. Et il est temps qu'ils arrêtent Ribbono shel Olam en France. Avec des... Et j'ai demandé à mon oncle, mais pourquoi vous ne faites pas ça quoi, c'est pas possible d'envoyer des... Allez, t'envoies 50 shochatim d'Israël former tous les shochatim de France. Ma c'est pour. Il dit non, parce qu'il m'a expliqué qu'il y a un Dayan, il y a 50 ans en France, qui a dit on ne le fait pas, et depuis, personne n'ose changer la chose. J'ai dit, bah, c'est tant pis pour vous, alors vous allez vous taper le boycott, et ce sera tant pis pour vous.
On
c'est absurde.
Hein ? On est dans l'immobilité.
Mais évidemment, mais c'est notre faute. C'est nous qui nous mettons les menottes. Faut pas... Donc ça, on pourrait régler ce problème-là en deux secondes. Tout ça pour dire qu'il faut venir avec un langage juif, il ne faut pas avoir honte. De qui on est. Et même à l'Europe, même si pour l'instant, tu vas leur dire ça, ils vont te prendre pour un extrémiste, l'honora. L'honora. Pourquoi l'honora ? Parce que tu peux aussi amener des arguments qui sont des arguments que eux vont comprendre. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à Dieu, il a dit. Dieu, il a dit. Chutz mizé. Tatatak. Mais n'aie pas peur de dire Dieu, il a dit. C'est chachouf. D'accord, bah on sait ce qui se fait pas. Mais malheureusement, ça se fait pas beaucoup dans pas mal d'endroits. C'est-à-dire, c'est pas qu'en Europe qu'on le fait pas. On n'a pas vraiment ce langage-là, et c'est bien dommage. C'est-à-dire, Bekitsour, voilà, Vani Akshe, Pasuk Gimel, Vani Akshe, et Lev Paro, Veirbeti et Ototai, Vet Moftai, Be'eretz Mitzrayim. Pourquoi Vani Akshe, et Lev Paro ? Pour pouvoir les Arbot et Ototai, Vet Moftai. Parce que si je vais endurcir son cœur, parce que je veux amener des signes et des miracles. Mais donc pourquoi est-ce que j'ai endurci son cœur ? Pour pouvoir mettre mes signes et tous mes miracles. Parce que t'imagines bien que si j'endurcis pas son cœur, au bout de la première plaie, il va dire, bon, c'est bon les gars, il y a un patron dans le game, moi j'arrête. Mais j'ai envie d'emmener 10 plaies, j'ai pas envie d'emmener une. J'ai mes raisons, on va les étudier ensemble, je veux en emmener 10. Donc, puisque je veux en emmener 10, il faut qu'ils tiennent.
Le programme est déjà...
Voilà, le problème est clair. Le problème est clair. Nous, on va essayer de le comprendre. Mais donc, pour ça, il faut que Pharaon il puisse tenir. Et donc, Altidag, velo yishma alechem paro, venatati et yadi ben mitzraim, veotseti et sivotai, et ami bene Israël, me eretz mitzraim, beshvatim, gedolim. Donc, il ne va pas t'écouter. Pas de problème. Et je vais, moi, avec ma main à moi, sortir qui ? Tzivotai vet ami. C'est qui Tzivotai et c'est qui ami ? Bon, ami, c'est facile. C'est les bien Israël. Et c'est qui Tzivotai ?
Toutes les tribus.
Ah ben non, ça c'est déjà ami. Les tribus, c'est ami. C'est les bien Israël.
Oui,
ben alors c'est qui ?
C'est
vet ? Non, Tzivot, ça va. Ça va, elle marche en tzevet. C'est pour ça qu'on appelle ça tzevet. D'accord, mes armées.
Là, il est traduit par mes légions.
Oui, mes légions, mes armées, l'homme jamais. Mais c'est qui ? C'est qui ? Ça ne peut pas être les Bnei Israël, puisqu'ils sont marqués en tant qu'amis.
Les anges ?
Les anges ? Nous dit le Kliyakar, Pachout, Zaher Evrav.
Oui, c'est ça.
À Erev Rav. Tu veux
dire quoi ?
Les Égyptiens qui sont sortis avec nous.
Pourquoi c'est les armées de Dieu ?
C'est les armées de Dieu.
C'est discutable.
Pourquoi c'est discutable ? Quel est le problème ?
Le problème, c'est que le saint d'Israël est appelé âme, et aussi les armées d'Israël.
Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et il en va de même pour le Révrav. Il est appelé âme aussi, et il est appelé aussi Tzivot Hashem. Là, en l'occurrence, tu as raison. Il y a cette... Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'on va apprendre l'un de l'autre. Le Révrav, il va devenir âme, et les Israël, ils vont apprendre à devenir Tzivot Hashem. Pourquoi est-ce que pour l'instant, Bnei Israël, ils ne peuvent pas être Tzivot Hashem ? Parce que tu imagines la tête de l'armée. Ils sont miskénim pour l'instant. Donc pour l'instant, ceux qui peuvent porter le nom de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas honte de qui ils sont. Pour l'instant, c'est ces Égyptiens qui vont décider de s'attacher à la sortie d'Égypte. Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, elle n'est pas faite que pour nous, elle est faite pour tout le monde. Puisque c'est le verset suivant qui le dit. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Les man ben Israël, mais Israël ben Shadim Gdolim, Vayadou Mitzraim, qui ani Hashem, Bintoti et Yadi, Al Mitzraim, Votseti et ben Israël, Mitocham. L'objectif de tout ça, c'est que Mitzraim, c'est-à-dire le monde, sache que je suis Dieu. Voilà l'objectif. La sortie d'Égypte n'est pas pour faire un grand chiour au Bnei Israël. Le grand chiour des Bnei Israël, ils l'auront au Mahamad Arsinaï. La sortie d'Égypte est là pour faire un chiour au monde, pour lui apprendre qui est Dieu. Chazak u Baruch.